rendez-vous pour cette 6e édition sur franceinter.fr pour choisir, parmi les 15 champions, celui ou celle qui vous a fait le plus vibrer cette année. L'annonce du lauréat et de la remise des prix auront lieu le 15 janvier en présence des parrains Eunice Barbeur et Fabien Barthès.
Le sportif français de l'année, en partenariat avec InfoSport Plus et Le Parisien aujourd'hui en France.
France Inter, la voix est libre.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut. Alors, le gros débat en ce moment, c'est faut-il interdire la quenelle? Moi, je continuerai à en manger, quand même. Et puis, faut-il interdire Dieudonné? Eh bien, Dieudonné, il est exécrable. C'est plus de l'humour, on le sait. C'est de l'antisémitisme, de l'antisionisme exacerbé au plus haut point. C'est un raciste, bien qu'il s'en défende, raciste totalitaire. Alors, est-ce qu'il faut interdire ces spectacles? Ben moi, je crois pas. Au contraire, il faut lui laisser faire ses spectacles. Comme ça, on sait à qui on a affaire. Et par contre, il faut user de tous les artifices de la loi sur tout ce qui est un délit et pas une opinion. Et puis après, surtout, faisons preuve de pédagogie. Séparons l'antisionisme déjà de l'antisémitisme et séparons les gens qui sont contre la politique actuelle menée en Israël contre les territoires occupés, des gens qui sont purement antisionistes et qui veulent voir l'État d'Israël disparaître. Ben, longue vie à Dieudonné, vive la quenelle, la vraie, celle qui se mange, puis combattons-le avec des idées et avec la justice. Bonne année, et comme on dit chez moi, à l'an Kevin.
C'est sûr, il va de soi que monsieur le président de la République, M. François Hollande, qui nous parle que nous devons soutenir M. Valls, le ministre de l'Intérieur, pour faire ce qu'il y a à faire par rapport à ceux qui prônent la haine, qui permettent la discrimination. Et c'est certain, pour ma part, ces gens-là sont hors la loi. Et merci, justement, il est vraiment temps de vraiment se réveiller, de corriger tout cela. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour et merci pour vos émissions. Donc voilà, on a perdu Mandela il y a peu de temps. C'était un grand homme et qui dénonçait l'apartheid qui est en vigueur en Palestine et que subissent les Palestiniens de la part de l'Israël. Donc ça, ils n'en ont pas trop parlé lors de ses funérailles, mis à part chez vous, quoi, et c'est tout à votre honneur. Par contre, Dieudo, ben, lui aussi, il défend la cause palestinienne. Et ça, ça dérange. Arrêtez de le faire passer pour un antisémite qui ne l'est pas. Mais moi, j'ai ma place pour le Zénith de Nantes le 9 janvier. Ben, j'espère que ça sera maintenu. Et puis, si c'est pas maintenu, ben, j'espère qu'on se rassemblera tous là-bas et puis qu'on leur fera voir qu'on est des gens pacifistes, parce que c'est ce que défend Dieudonné, le pacifisme avant tout. Donc, merci à vous et puis ben, essayez de défendre les intérêts de tout le monde, quoi. Salut.
Ouais, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Je suis un peu comme l'auditeur, là. Moi, j'ai rien de sympathie envers Dieudonné, mais c'est vrai que par rapport à Manuel Valls, c'est pas terrible. Et puis, je trouve quand même bizarre qu'on veuille interdire Dieudonné pour pseudo-antisémitisme au moment où on va aller négocier avec l'Arabie Saoudite, quoi. Je veux dire, le pays où on coupe la main des voleurs, où les femmes n'ont même pas le droit de conduire, et bon, je parle pas des activités des autres religions. Alors voilà, qu'ils aillent se faire un peu torcher avant de faire la morale. Ciao, vive, apportez-vous bien, finissez bien l'année.
L'Arabie Saoudite prête 3 milliards au Liban pour acheter de l'armement. Donc Hollande, en visite en Arabie Saoudite, se propose tout de suite de fournir pour 3 milliards d'armement au Liban. Alors ne confondez pas, quand vous voyez François Hollande se prosterner, ce n'est pas parce qu'il est musulman. Non. C'est simplement parce qu'il se prostitue. Oh, le lapsus. Parce qu'il se prosterne devant les puissances de l'argent, celle de l'Arabie Saoudite ou celle de n'importe où, pourvu qu'il y ait du pognon. C'est le nouveau socialisme, ça vient de sortir. Joyeux Noël.
Bonjour, mon fils a eu à 23 ans un arrêt cardiaque suite auquel il a été opéré avec des radiofréquences dans le cœur. Et on voit le chirurgien cardiologue jouer sur son ordinateur à bombarder l'origine du malaise pendant que le malaise a lieu. On voit le chirurgien jouer sur console un peu. Je dis ça parce que j'ai entendu l'émission sur les drones. Et ça, c'est dans la même salle d'opération que ça se passe. Les drones, c'est à des milliers de kilomètres. C'est encore plus troublant. Merci.
Oui, bonjour. En écoutant l'émission cet après-midi sur les drums, cela me rappelle, étant gamin, entre 1940 et 45, les fameux avions sans pilote V1-V2, qui passaient au-dessus de notre tête dans le nord de la France, bourrés d'explosifs, destinés à exploser dans la région de Londres. Quand leur moteur s'arrêtait, c'était pour nous. Souvenir épouvantable, toujours présent à l'esprit, 73 ans après. Merci.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, en ce dernier jour de l'année, dernier jour consacré au bilan 2013. Eh ben, nous, on est un petit peu déçus pour tout vous dire. Cette année, on espérait un peu de promotion, on espérait être un petit peu plus soutenu, on espérait être un peu plus invité dans les cocktails par les élus, par les décideurs, par les élites de ce pays. Oui, on espérait ça. Oh, certes, votre serviteur a reçu le grand prix de la SCAM pour l'ensemble de son œuvre, mais franchement, on espérait plus. Cette année, on espérait plus. Et on s'est demandé pourquoi. Alors, on a réécouté un certain nombre de nos émissions et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être parfois quelques pistes d'explication dans cette heure que nous allons passer ensemble, intitulée « La main sur le micro ». Qui a mis la main sur le micro de là-bas, si j'y suis, au cours de ces dernières années et au cours de cette année aussi? Eh bien, c'est ce que vous allez joyeusement découvrir dans cette dernière heure de l'année de là-bas, si j'y suis. Bonne fête à tous, bonne année à tous. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. La boîte vocale qui, bien sûr, attend vos vœux et vos souhaits radiophoniques pour 2014.
Salut, c'est Jean-Luc de Saint-Brieuc. Mandela, bah, si j'y suis, ça l'a fait. Schumacher, si j'y suis, ça le fait pas. Ah ben, on va faire Schumacher, tous les flashs, heure par heure. Bonne année, quand même. Salut.
Le 31 décembre. Je m'étais mis sur mon 31 pour lui en mettre plein les yeux. Ce fut un échec. L'an prochain, je me mettrai sur mon 32. Nom de Dieu. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Pascal Le Pascariello, la main sur le micro.
On est, je sais pas, on est une quarantaine, moitié journaliste, moitié supporter de l'UMP dans la salle.
Là-bas si j'y suis.
Il y a un peu, on dirait, l'écusson de l'équipe de Marseille.
QG de campagne de Nicolas Sarkozy.
À la place que ce soit marqué OM, c'est marqué NS comme Nicolas Sarkozy.
26 février 2007.
Là, il y a un silence qui se fait. Est-ce qu'il y a les chefs qui arrivent ?
Ce qui va arriver, absolument. On est tous très impatients.
Il y a des flashs qui crépitent en bas, donc... Donc là, on est au siège du QG de campagne,
oui,
de l'Union pour un mouvement populaire, et au club des supporters. Et par hasard, je me retrouve coincé entre deux avocats d'affaires.
Ah bon, bah écoutez, Nicolas Sarkozy est un avocat. Il a beaucoup d'avocats derrière lui, beaucoup de Français, des professions libérales.
Où est-ce que tu es ?
La Prière-Vieux. Et toi, t'es où ?
Moi, j'ai monté mon cabinet il y a un an. C'est et pas... avant, j'ai fait 10 ans chez des Américains.
Ah, j'étais chez Baker McKenzie quand j'étais stagiaire, tu connais ?
Oui, moi j'étais chez De Beauvoise pendant 8 ans.
De Beauvoise, ok.
À Paris, à New York, non, et après chez Polaski.
T'as fait Sciences Po aussi ? Tu vois ? C'est un petit monde, hein.
Il y a tout le staff qui arrive avec... Il y a 15-20 photographes devant. Dans une...
Merci à Hugo, merci à Arnaud Dacier. Il va de soi que l'objectif des 500 000 supporters, c'est un minimum. écoutez, ayez un peu d'ambition. Petits objectifs. L'équipe qui a monté cette opération, vraiment, ils l'ont montée en totale liberté. Et demain, si je suis président de la République, je veux également que chacun puisse prendre des initiatives, qu'on se sente libre et pas contraint. Et il faut que ça soit la liberté, l'optimisme et mettre de la souplesse, de la gaieté, de la joie, etc. Enfin, il faut remettre un peu de simplicité, d'authenticité, de liberté dans tout ça. Et on a le sentiment comme ça que la démocratie française rentre dans la modernité. Voilà. Bon, le moral. Je parle aux journalistes, bien sûr. Monsieur Akili, vous êtes un chef d'équipe à France Inter, alors on va vous montrer.
Juste une question, pardon, pardonnez-moi l'outil Internet. Quel regard portez-vous sur ce qu'on semble connaître des propositions de Madame Royal, plus 5% de haute retraite?
Qu'elle fasse campagne, qu'elle développe ses idées.
Monsieur Bayrou monte dans les sondages, ça vous inspire quelle réaction?
Rien. Vous voulez parler de ma montée? Vous voulez parler de ma montée à moi?
Oui, enfin, si vous voulez parler donc de votre montée.
Bon.
Monsieur Sarkozy.
Oui, bien sûr.
Excusez-moi, je suis un jeune journaliste, donc c'est la première fois honnêtement que j'assiste à une réunion dans un QG de campagne et puis tout ça. Vous avez parlé à propos d'Internet, d'absence de contrôle, de liberté, de gaieté. Ça, c'est pour le monde virtuel. Maintenant, je ne sais pas, mais quand on passe dans la rue, je suis arrivé avec un de vos jeunes supporters, il y avait 9 camions de police, 7 camions de police et 2 camions de gendarmerie. Il y avait toutes les personnes qui se baladaient dans la rue avec des talkie-walkie aux mains. C'est pas l'absence de contrôle, la liberté dans le monde réel ici, quoi.
Vous êtes un jeune qui a de l'expérience, je vous en félicite. Vous avez dû faire des choses avant de faire journalisme, pour avoir cette expérience-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple, parce que... Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un QG de campagne... on vient de manifester devant, c'est tout simplement pour que la liberté puisse s'exprimer. Vous devriez dire c'est bien que je puisse parler, voilà, c'est tout. Mais enfin, d'après ce qu'on dit de moi et les possibilités critiques multiples, je ne pense pas que la liberté soit en cause. C'est assez normal qu'on veille que chaque candidat puisse faire campagne sans qu'on l'empêche de parler. Remarquez, en général, les manifestations contre moi, il n'y a pas beaucoup de monde. Et, ben, si vous voulez prendre un café, on peut prendre un café. Si on nous offre un café, c'est pas sûr.
Monsieur, nous avons bien reçu toutes les questions que monsieur souhaite que nous lui posions. Monsieur sait bien que nous les avons bien apprises par cœur, mais si jamais une question malencontreuse venait à importuner monsieur, nous savons que monsieur saura esquiver et apporter la bonne réponse de monsieur. Monsieur nous fait l'honneur de sa confiance depuis bien longtemps et n'a jamais eu à se plaindre d'une quelconque entorse à la règle de l'interview de monsieur. À la demande de monsieur et des conseillers en communication de monsieur, nous nous efforcerons de mettre au moment convenu et indiqué sur le scénario quelques points d'impertinence, mais bien sûr sur des questions tout à fait secondaires. Bon, c'est vrai, j'exagère, ça se passe pas comme ça chez les journalistes politiques. Les journalistes politiques sont des gens responsables, ce sont les plus prestigieux, ce sont les initiés, ceux qui sont dans le cercle rapproché, ceux qui tutoient le prince, ceux qui rient des bons mots du président. Alors bien sûr, les aigris, les ratés, les tocards du métier les voient comme des chiens de garde, des lèche-bottes, des courtisans complaisants. Vous vous souvenez de cette image? La charrette en Camargue, avec le tracteur qui tire la charrette, et dans la charrette, une charretée de reporters et de journalistes photographiant le président déguisé en cow-boy sur un cheval court sur pattes. Oh, pourquoi évoquer de telles images? Il faut vraiment être sous l'empire de l'envie et de la jalousie. Face au prince, le journaliste politique assume sa mission. Être la voix de la multitude qui demande des comptes à celui qui a été adoubé par le peuple. Ouais.
Pour ce qui me concerne, j'ai essayé d'approcher ces cercles du pouvoir au cours de ces années.
De là-bas, si j'y suis,
mais avec tact, avec ruse, avec savoir-faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé les meilleurs jeunes reporters de là-bas, si j'y suis. Et jusque-là, ça n'a pas donné grand-chose. Et je me demande bien pourquoi. Et c'est ce que j'ai voulu examiner avec vous au cours des 7 heures que nous passons ensemble dans là-bas, si j'y suis. La main sur le micro.
À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, ta punaise, est-ce que c'est bien clair ?»
Messieurs, garde à vous, dépêche à Excel, mission soldat, si vous l'acceptez, sur radio dégainer vos caméras pour cocher à la 20h. Tout le monde tire le pont, messieurs, vous avez 2 heures.
Poche de risque, journaliste, bête et méchant,
qui disent ce qu'ils pensent au détriment des gens qui nous sponsorisent et donc donnent leur avis. Un conseil, troufion, oublie la mutinerie.
J'ai rendu du compte, rappelle-toi qui son boss, Arnaud, Bouygues, Guy Lagardère, Généraux, Firas, 3-7. C'était atroce, toujours partiellement discrédité. Ceux qui pensent que la loi martiale.
La droite et la gauche, comme en politique. Chez nous, c'est du pur, juste anecdotique. La devise de nos compagnies repose, je te l'explique. Suis ton propre chemin vers la pensée unique.
Quelle pensée construite par nous pour le pouvoir, pour permettre aux mensonges qu'ils puissent mouvoir, filmer du fait. Un code de 10 ans dans un mouroir, un sujet 3-30 qui va sortir les mouchoirs.
Déformer, déformer, apeurer, maintenir la pression sur la population. Car il est essentiel de pouvoir la contrôler pour mater dans la toute forme de rébellion.
Mais la chose la plus importante, c'est celle-ci, soldat. Tu dois être en phase avec ton ennemi, le conforter. Dans ses peurs les plus sordides, c'est ton sac de terre. Plus larvé, plus candide.
Vos convictions, vos idées, vos principes. Faites un trait d'esprit, on vous envoie au casse-pipe. Pas de coup d'état, respect du chef des armées.
La révolution ne sera pas télévisée.
La révolution ne sera pas télévisée.
Car la révolution, nous pouvons la contrôler.
La révolution ne sera pas télévisée.
Pour l'aménager moins de 50 ans, la guerre est déclarée.
Hier, je me trouvais...
Là-bas, si j'y suis.
À ECCE, à Poix du Nord, donc c'est une entreprise...
5 avril 2007.
...de commercialisation et de confection européenne, qui est un sous-traitant du groupe LVMH. La plupart des salariés touchent entre 1000 et 1100 euros par mois. Et il se trouve qu'il va y avoir une délocalisation de la production de costumes Givenchy et de costumes Kenzo vers la Pologne, parce que le donneur d'ordre, en l'occurrence LVMH, a estimé que c'était trop coûteux. Quand on sait que dans le même temps, le groupe LVMH a fait à peu près 2 milliards de profits l'an dernier, que les dividendes vont être en augmentation de 30% pour cette année, que le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, a vu sa fortune augmenter de 3 milliards l'an dernier, est-ce que ça, c'est pas un facteur de dévalorisation du travail, qui est une telle différence de l'ordre de 240 000 entre le revenu de Bernard Arnault l'an dernier et celui d'une salariée de ECCE?
Oui, mais bon, on va éviter les amalgames qui frisent parfois un tout petit peu la démagogie quand même.
Xavier Bertrand, député de l'Aisne.
Parce que le vrai, ce qui nous intéresse là, c'est quoi? C'est la situation de ces salariés-là.
Oui.
D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il faut rendre les délocalisations beaucoup moins attractives. Et dans ces cas-là aussi, ce qu'il faut participer, c'est à la revitalisation d'un bassin. Mais que d'un autre côté aussi, nous devons nous poser la question des charges que nous avons dans notre pays. Quand nous voulons aussi aujourd'hui diminuer les prélèvements obligatoires, c'est pas justement pour évoquer le sujet dans la campagne, c'est parce qu'on sait pertinemment que les prélèvements obligatoires qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, sur les salariés, sont de véritables freins en la matière.
Je reviens néanmoins à cet exemple, parce que ces salariés, l'encadrement de CCE a écrit à 5 reprises à Nicolas Sarkozy, d'autant qu'ils ont découvert que Bernard Arnault avait été témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Et donc,
quel raccourci vous voulez faire, s'il vous plaît?
Quand Bernard Arnault est témoin du mariage de Nicolas Sarkozy avec M. Martin Bouygues, que Arnaud
Qu'est-ce
Lagardère...
Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît?
Je me demande si, en tant qu'avocat d'affaires, Nicolas Sarkozy n'aura pas tendance à défendre davantage...
Je ne vous permets pas de dire ça. C'est un raccourci qui, de votre part, est quand même très, très surprenant. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce
que vous voulez dire, s'il vous plaît?
Je vous le dis. Je me demande s'il n'y aura pas une tendance à davantage défendre les intérêts de personnes qui sont les premières fortunes de France que les intérêts de personnes qui touchent 1000 euros à Poix du Nord.
Je ne sais pas si c'est votre question personnelle ou votre point de vue personnel, mais je peux vous dire une chose. C'est que là où Nicolas Sarkozy se rend pour les entreprises, je peux vous dire qu'eux ont bien compris. Le seul qui les défend vraiment, c'est lui. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. C'est ça, votre interview?
Tiens. Du populisme, c'est ça, alors. Ça vous paraît du populisme, alors?
Bien sûr. Quand vous, vous dites... Ouais, mais quand même, c'est leur témoin de mariage, donc il va défendre ces gens-là qui sont nantis par rapport aux salariés.
Oh, le propos. Oh.
Et voilà. Moi, je pensais que par ce moyen, je pourrais rentrer en contact avec Xavier Bertrand, qui m'appelle, qui me dit « Daniel, il est formidable, votre petit journaliste, je peux vous tutoyer ?» J'aurais dit « Oui, Xavier, on peut se tutoyer. Il est formidable, ce petit journaliste. Là, il est naïf, il sort de l'œuf. » Et voilà comment s'est conduit François Ruffin avec ses machins sociaux, vous savez. Puis alors, s'imaginer... Enfin, vous avez compris, populisme, quoi, c'est un cas de populisme. Alors bon, j'ai essayé de me rattraper autrement. C'était en février 2008. Février 2008, c'était les élections à Corbeil-Essonne. Oh, Corbeil-Essonne, c'est Monsieur Certasso, vous savez, qui se donne un mal fou, qui se décarcasse pour sortir ces jeunes un peu en difficulté dans ces quartiers en difficulté de Corbeil-Essonne. Il a autre chose à faire, c'est un grand industriel, une grande figure de l'économie française et de la politique française d'ailleurs, et qui là, consent, c'est un militant. Voilà, Serge Dassault, il faut le voir comme un militant, quelqu'un qui aide les défavorisés, les pauvres, les gens qui sont en difficulté et qui les soutient financièrement. Il a de l'argent, Monsieur Dassault, c'est vrai. Eh bien, voilà, il en donne à ces pauvres gens, à ces jeunes qui font des efforts. Il n'est pas compris, en plus. Il n'est pas compris, Serge. Donc, j'ai envoyé Pascal Mascariello. Et on l'envoie, donc, en février, le 8 février 2008, poser des questions lors d'un conseil municipal, un peu avant les élections municipales. Et voilà ce que ça donne.
Excusez-moi. Bonjour, je travaille pour France Inter.
Oui, alors, France Inter en direct.
Voilà, donc j'ai trois petites questions à vous poser. La première, c'est, je ne sais pas si vous avez expliqué à vos concitoyens, monsieur Serge Dassault, le fait que vous considériez la mairie comme une danseuse, Corbeil-Essonne. Complètement. Alors, je voudrais juste savoir où en sont les perquisitions du juge. Où on en est avec Bouygues?
Laissez-la reprendre l'air, laissez-la reprendre son esprit. Laissez-la arrêter, n'étouffez pas.
C'est de la dictature, ça.
Laissez-moi.
C'est quoi que vous voulez faire?
Madame,
c'est
quoi, madame?
Vous n'avez pas été invité.
C'est public.
Non, c'est pas
c'est public.
C'est sur invitation.
Non, madame, non, c'est pas public. Alors, c'est sur invitation.
J'étais au milieu de salle, tout simplement, et je vous ai vu arriver. J'ai pas très bien entendu votre intervention. J'ai entendu que vous posiez des questions à monsieur Dassault, et tout de suite, ça a fait un attroupement. Vous avez été prise à partie, et ça, moi, je suis. Clairement, vous avez été agressée. Vous rentrez comment là? Vous avez quelqu'un pour vous ramener?
Je vais prendre le train.
Vous allez où?
À Paris.
Voilà, Pascal Pascariello prise à partie par les gros bras de l'ami Serge Dassault, ou dans une certaine indifférence des confrères. Et à la suite de ça, Serge Dassault nous poursuit. Ça, c'est fortiche. Il nous poursuit pour diffamation suite à des messages laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis. Et alors, la veille de l'audience au tribunal, au dernier moment, il se désiste au dernier moment, quelques heures avant l'audience. Voilà pour cette séquence-là. Et moi, ça arrange pas mes affaires. Je vous rappelle mon idée, mon plan, c'est de devenir moi aussi un notable respectable en rentrant en contact avec le cercle enchanté, les initiés. J'y arrive pas. Alors, j'essaye quand même à nouveau en envoyant toujours Pascal Pascariello dans une autre histoire. Alors là, c'est beaucoup plus calme. C'est l'entreprise, la boîte. Vous aimez votre boîte, vous voulez du dynamisme, vous voulez créer votre entreprise, vous en avez marre, vous n'êtes pas quelqu'un d'assisté, là, comme ça. Là. Non, alors voilà, Françoise de Panafieux.
Bonjour. Madame Panafieux, bonjour. Pascal Pascariello, je travaille pour France Inter.
Oui.
Alors, a priori, en jour de grève, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans un îlot.
Ben ici, on est donc à Aqua Boulevard, dans le 15e arrondissement. C'est un endroit dont la principale activité tourne autour de la piscine. Et puis, on est aujourd'hui réunis ici surtout parce que c'est la fête des entreprises qui est organisée par Sophie de Menton.
Et c'est qui, Sophie de Menton?
Elle est à la tête de toute une organisation qui relie les entreprises les unes avec les autres.
Et vous êtes venue pour...
Moi, je suis venue comme à la fois amie de Sophie de Menton et personnalité politique pour donner le départ de cette course cette année avec une actrice qui va nous rejoindre, qui est Cyrielle Claire. Et nous allons toutes les deux donner le départ de la course tout à l'heure.
Cyrielle Claire?
Cyrielle Claire.
Une actrice de quoi? De films, de...
Cinéma, télévision, etc.
D'accord. Ah, elle était dans des séries sur TF1, non?
Oui, exactement.
Mais là, je voulais savoir, c'est quoi le message exactement?
Le message, c'est les entreprises, elles sont là, elles sont vivantes. Elles sont dans la course. Elles se mobilisent.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la réforme des retraites? C'est anormal de faire la grève aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il faut faire très attention quand même, parce qu'on est aujourd'hui dans un moment de mondialisation. Et à cette occasion-là, l'image que la France donne à l'étranger est de nouveau assez incomprise. Il faut faire quand même très attention. Par ailleurs, il y a des régimes de retraite qui doivent être revus, on le sait très bien, et je crois que maintenant c'est accepté par tout le monde. Bien évidemment, dans un moment de solidarité, au moment où on pense à la dette publique, chacun est bien d'accord pour dire que ces avantages, il doit commencer à accepter de les regarder de près et éventuellement d'en abandonner certains. Voilà.
Et j'ai encore deux petites questions, notamment sur le système de retraite des députés, parce que là, on a beaucoup parlé.
Alors,
de...
Attendez, là, moi, je suis vraiment sur l'entreprise, d'accord? Voilà. Alors, j'y vais.
Parce que je me demandais pour les députés, Madame Panafieux, a priori...
Attendez,
ils ont
j'arrête là, si vous voulez. Maintenant, on est sur autre chose. Voilà. Parce que c'était juste sur la fête des entreprises, et puis on en est maintenant à la plus belle beauté.
Non, on parlait juste du système de retraite des députés, mais là-dessus, il n'y a aucune réponse. Vous voulez pas me répondre?
Il est là. Il est là.
Vous voudrez pas me répondre sur les députés, Madame Panafieux?
Écoutez, attendez, vous arrêtez là. Vous êtes comme une caniche à 35. Vous nous laissez tranquille, d'accord?
Vous êtes de quelle radio? Vous êtes de quelle radio?
De France Inter.
De France Inter? D'accord, parce qu'en fait, je crois qu'on n'était pas au courant.
D'accord, mais c'est public, non?
Donc je crois qu'il faut essayer de ralentir le rythme.
Comment?
On n'a pas besoin d'informations.
Mais ne mettez pas la main sur le micro.
Je crache du feu, je suis nerveux, c'est contagieux sauf qui peut. Faut pas m'énerver,
faut pas
me contrarier,
faut pas
m'approcher,
faut pas
me marcher sur les pieds, je fais tout sauter. J'ai trop de tempérament, je suis comme un volcan, j'explose à tout moment. J'ai paprika dans le sang. Faut pas m'énerver, faut pas me contrarier, faut pas m'approcher. Je marchais sur les pieds où je fais tout, 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 tout sauter.
Vous êtes qui, vous?
Mais qui êtes-vous?
Ça, c'est le coup classique, quoi. On vient d'être arrêté par un type qui dit pas qui il est, qui ricane quand on lui demande, et qui se met en travers, qui se met en face de nous.
Et qui est en train de faire les 100 pas avec son téléphone portable. Mais ça fait un bouton qu'il y avait deux voitures qui nous suivaient à tour de rôle, quoi. Mm-hmm.
Là-bas, si j'y suis, en Tunisie, 9 novembre 2000.
Ça vous arrive souvent, ça?
Oui, mais braquer comme ça, c'est nouveau. D'habitude, quand même, ils nous laissent nous garer. Ou ils nous arrêtent autrement. Alors, je sais pas.
Ah oui, il y a des copains qui est arrivé derrière.
Oui, je pense qu'il attendait des copains, c'est ça. Et son nombre, tu dis le nombre de personnes qui sont là. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8.
8 personnes pour une fournée.
Oui.
Voilà, bienvenue en Tunisie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le samedi 9 novembre, vers 23h45, à Madia, en Tunisie, nous étions Guy Vanctil et moi, accompagnés de Siem Ben Sedrine et d'Omar Mestiri, qui sont deux opposants tunisiens. Et nous avons été agressés par des hommes prétendant appartenir à la police tunisienne.
نعلم كلمة فماش ترخيص في الانترفيو وهما فيما يخص الرخص الرسمية عملوها
شكون هم؟
هما فرنسا انتر
هاي
اي وعندهم رخصهم شيء
احنا بالنسبة لنا احنا ما عندناش ترخيص
ليه هما هو مش منك انت باش يطلب ترخيص هو ما يطلبش ترخيص منك هو يعلم
انا نتكلم فيك كسلطة
اي فهمتك لكن انت سلطة تنفذ القانون مش تتجاوز القانون
لا لا
اي القانون ما يقولش اللي عندك الحق باش
Qu'est-ce qu'il dit?
Il
dit que vous avez fait des interviews
sans lui demander son autorisation.
À qui? À ce monsieur?
Oui. Il est le chef du district de Sfax.
Soyez le bienvenu en Tunisie, monsieur. On doit vérifier les appareils.
Non. Non?
On s'y oppose.
Si. Est-ce qu'on appelle l'ambassade tout de suite, monsieur? Est-ce qu'on appelle l'ambassade de France tout de suite? Bon, alors on va appeler l'ambassade.
S'il vous plaît.
Non, non.
Bienvenue en Tunisie.
Vous donnez le
truc
pour
vérifier.
Non, c'est hors de question. Vous n'êtes absolument pas disposé, vous ne nous avez même pas montré un document.
Il n'y a pas de document et on a page. On n'obtempère pas. Non, je refuse.
Ferme ta porte, ferme ta porte.
Je refuse.
Non, là, ils sont en train de nous forcer.
Non.
Là, ils sont en train de nous forcer.
Attention.
609.
Ne faites pas ça, c'est une agression. Arrêtez.
Ne touchez pas, monsieur. Ne touchez pas.
بلاد. هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك طاكاتك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاجبين زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام كبو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس عذاب رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو ناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
La ville n'avait vraiment pas besoin de ça. La fermeture de 13 lignes desservies par Ryanair.
Europe 1,
14 octobre 2010.
Terminé les Marseille-Brest, fini les voyages à Rome ou à Séville, 1000 emplois directs et indirects menacés, 550 millions d'euros de retombées économiques en moins. Michael O'Leary explique, pas question de risquer une amende à cause de la procédure judiciaire en cours, mais pour le businessman irlandais, le grand perdant, ce n'est pas lui.
Je pense que c'est très dommageable pour Marseille, pour la Provence et pour l'emploi dans la région. Mais tout ce travail perdu, c'est la conséquence d'un décret.
Ce fameux décret de novembre 2006 qui soumet les personnels des compagnies installées sur notre sol au droit français. Jean-Claude Gaudin lui préfère s'en prendre au syndicat à l'origine des premières plaintes. Un maire qui n'hésite pas à parler de comportement irresponsable.
Et là, je saute sur l'occasion, d'accord, ça n'a pas marché avec Sarkozy, ça n'a pas marché avec Xavier Bertrand, ni avec Serge Dassault, ni Françoise de Panafieux. Je me suis pris une succession de râteaux. Mais je ne désespère pas d'avancer dans la bonne société et de grimper. Mais il faut savoir se décentraliser. Ma bêtise, c'était de rester sur Paris, trop près. Jean-Claude Gaudin, c'est Marseille. Voilà, c'est peut-être rentré par ce côté-là et grimper par ce côté-là. J'en vois à nouveau, après l'avoir briefé, Pascal Pascariello.
Jean-Claude Gaudin.
Oui, Jean-Claude Gaudin, sénateur maire de Marseille et vice-président du Sénat. C'est assez dramatique ce qui se passe aujourd'hui à Marseille-Provence. En 4 ans, le trafic est passé de 200 000 passagers à 1,7 million. Et Marseille perdra environ 1 million de passagers avec le départ de la compagnie, si cela se confirme. Ryanair avait basé 4 avions à Marignane et prévoyait d'en baser un cinquième en 2011. Et c'est plus de 500 employés. Il est clair que c'est une perte considérable pour les emplois, pour l'économie, et bien entendu, cela ne me fait pas plaisir. Or, tout cela est dû à un décret qui avait été pris au temps de M. de Villepin. Ben, peut-être que le président de la République pourrait demander à ce que l'on rédige un autre décret qui donnerait cette autorisation à Ryanair de pouvoir être loyalement en concurrence.
Alors, Monsieur le maire, puisque vous avez vos fiches, moi j'ai mes fiches pour rappeler, c'est que Ryanair a décidé de partir parce qu'a été mis en examen suite à une plainte déposée au tribunal d'Aix-en-Provence pour travail illicite. Ce qui veut dire que les salariés de la compagnie Ryanair, qui sont 120, hein, donc les salariés de Ryanair étaient sous contrat irlandais. Ils ne cotisent pas pour la retraite et Ryanair ne paye évidemment aucune charge en France. Et des revenus qui sont entre 900 et 1200 euros. C'est quand même des situations de travail un peu difficiles. Donc ça veut dire que c'est quand même un coût pour la France, un coût pour les salariés embauchés sous ces contrats.
Ryanair à Marseille, ça a apporté à Marseille-Provence, ça a apporté des millions de passagers. Les gens sont heureux comme cela. On fait travailler des gens. Mon but à moi est de faire sans cesse reculer le chômage. Alors, bon, la seule chose qui compte, c'est que les gens soient heureux et qu'ils puissent, à moindre prix, à bas prix, aller dans les destinations qu'ils le souhaitent. Deuxièmement, c'est que on fasse travailler les gens. Et troisièmement, le monopole n'est pas une bonne chose. Et on le voit tous les jours. Bon, et par conséquent, on ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas la liberté totale, où il y a la liberté et la concurrence. Eh bien, c'est ce que je souhaite.
Mais, non, mais vous énervez pas, on peut continuer.
Non, ça suffit. Vous semblez avoir des éléments que je n'ai pas. Je vous l'ai dit.
Par exemple, EasyJet avait été condamné.
Écoutez, j'en sais rien. Voilà, moi je vous dis, je veux la compagnie, l'emploi, tout ce qui est profitable pour Marseille, on est en train de nous le détruire. Voilà.
Poser des questions sur
allez,
le code mais du
vous
travail.
Pas... C'est pas ciao, au revoir. Vous n'avez pas de...
Sur le code du travail.
Non, mais je ne connais pas le code du travail, moi. 06, déjà pas mal.
Ben, merci beaucoup.
Ben, heureusement. Allez, au revoir. Merci.
Durant toute la campagne, je n'ai fait que mentir. Mais quand je serai élu, attendez-vous au pire. Je vais péter les plombs, je vais délire total. Quand je serai ministre de la démence nationale. Votez pour moi. Alors votez pour moi, votez pour moi, élisez-moi. Des saints, je suis le roi, votez pour moi.
Là-bas, si j'y suis, 20 novembre 2013.
Nous voilà, ce soir, une cérémonie. On est dans un hôtel particulier, sous les dorures de la République, dans la demeure de l'ambassadeur du Qatar. Car ce soir, Mohamed Al-Khouari, qui est en poste en France depuis une dizaine d'années, célèbre son départ. C'est une très belle cérémonie, hein. Il y a beaucoup de monde. Du marbre un petit peu partout, des dorures, c'est très 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 joli. Il y a des hôtesses qui réceptionnent les invités.
Alors que voilà Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur français, et qui vient serrer la main là très longuement à l'ambassadeur du Qatar. Claude Guéant qui avait contribué grandement à rapprocher la Sarkozy des émirs qataris et de leur pétrodollar.
Victime de la musique là. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous ?
Claude Guéant, vous êtes l'ancien ministre de l'Intérieur. On est ce soir à la cérémonie de départ de l'ambassadeur du Qatar.
Mohamed Al-Khouari est un ami personnel. C'est quelqu'un à qui beaucoup de gens portent de la considération, de l'estime. Il a œuvré énormément pour faire connaître son pays, pour le faire apprécier, pour le faire estimer. Il a été aussi au départ de beaucoup de projets communs entre le Qatar et la France.
Vous également.
Bon, moi, j'ai mené un certain nombre de projets, oui, bien sûr.
Contribuer à rapprocher la Sarkozy, on va dire, oui, du Qatar.
L'objectif principal d'une diplomatie, c'est de faire en sorte que les pays s'entendent bien entre eux. Et il y a un intérêt tout à fait stratégique pour la France à avoir de bonnes relations avec le Qatar. C'est un petit pays, un pays riche aussi, mais c'est un pays qui a beaucoup servi l'Occident en général. C'est un pays qui sert la paix du monde.
Ça, c'est aborder des points plutôt positifs pour le Qatar. Mais j'aimerais vous entendre, par exemple, sur les Français qui sont retenus là-bas en otage. Il y a 4 de nos ressortissants. Ou également sur les travailleurs. On a vu avec les accusations d'esclavagisme où les entreprises françaises sont en concours hein, pour les stades, par exemple, de foot de la Coupe du Monde 2022. On dit que le Qatar, en Syrie, finance des groupes djihadistes radicaux. Ou également, au Mali, l'argent du Qatar était soupçonné d'arriver. Vous qui connaissez bien l'Afrique.
Écoutez, vous avez dit le mot, est soupçonné, on dit que, etc. Jamais on n'a apporté la moindre preuve.
Ce ne sont que des rumeurs. Et pourquoi on ne vous entend pas, par exemple, sur les 4 ressortissants français, nos 4 compatriotes qui sont là-bas ?
Écoutez, on ne m'entend pas, tout simplement, parce que ça ne vous aura pas échappé, je ne suis plus membre du gouvernement.
Oui, mais vous pourriez faire des déclarations publiques, vous en allez, M. Guéant.
Je ne suis plus membre du gouvernement.
Ne me fuyez pas.
Donc je n'ai pas à dire un avis de la France là-dessus. Je n'ai pas d'avis.
À l'époque, vous étiez proche du Qatar et ministre de l'Intérieur, on ne vous a pas non plus entendu beaucoup sur les affaires.
Jamais on a évoqué ces choses-là.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, justement, puisqu'on l'évoque ?
Mais écoutez, il y a un gouvernement qatari et le gouvernement qatari prendra ses responsabilités. Je ne doute pas un instant que les choses s'améliorent considérablement.
Une dernière question, M. Guéant. Dans les financements de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, vous êtes aussi soupçonné, par exemple, d'avoir participé à des versements de
récréation. Je suis quoi ? Soupçonné de quoi ? Je suis soupçonné de quelque chose ? Je n'ai jamais rien eu d'un tel. Deuxièmement, je n'ai jamais participé à quelque opération de ce genre-là, et Nicolas Sarkozy non plus.
Voilà. Sur les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Il n'y a jamais eu de financement étranger à la campagne.
On parle de 50 millions d'euros.
Écoutez, moi, je n'ai jamais vu rien de tel. Jamais. Ni entendu parler. C'est très simple.
Est-ce que l'intérêt du Qatar dans l'engagement aux côtés de la France en Libye aurait été de tuer Kadhafi pour récupérer les 50 milliards d'euros d'avoir libyen que possède le Qatar et ces 50 millions d'euros dont on parle ?
Écoutez, c'est des grands gestes parce que ce sont des pures affabulations dont, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Et vous me permettrez d'ajouter que je regrette de vous avoir répondu parce que vous m'avez dit, je vous interrogeais sur quelque chose, vous m'avez interrogé sur autre chose. C'est pas correct.
Monsieur Ruffin, bonjour, bienvenue au Conseil national. Je vous en prie, installez-vous.
Alors là, on vous voit avec le...
Oui, là, vous avez quelques photos qui m'ont marqué. Ça, c'est mon discours à l'ONU dans le cadre de la conférence des présidents de parlement du monde. Ma rencontre après mon élection avec le pape.
Le pape Jean-Paul II.
Mon élévation par Albert II dans le grade de supérieur de la décoration nationale. Ça, c'est une journée des femmes qu'on a fêtée pour la première fois ici avec la princesse Stéphanie et mon homologue, le président du Sénat, M. Pensley, qui m'a reçu au Sénat français.
Oui, mais c'est ça, donc vous êtes un peu l'équivalent de...
Exactement. Donc j'ai eu vos questions, effectivement. Alors on va essayer de répondre de manière très courte.
D'accord. De toute façon, ça reste entre nous le fait que je vous ai filé les questions à l'avance, que je les ai un peu modifiées et tout ça.
Bien sûr.
Parce que, enfin, c'est une question d'honneur professionnel, vous voyez. Bon, bah donc même si on a écrit les questions et puis un petit peu les réponses à l'avance, l'objectif c'est de faire ça de manière la plus spontanée possible.
Oui, bien sûr. C'est une radio, j'ai bien compris. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on procède ? Vous me posez la question et je vous réponds comme si on était en direct. Ou comment voulez-vous qu'on enregistre ?
Oui, voilà.
Je vais sortir le matériel. Ma dernière chance. C'est Stéphane Valéry. Alors, il est beaucoup moins célèbre que les précédents, bien évidemment, mais c'est comme ça, pas marché avec les précédents. Monaco. Stéphane Valéry, qui est quand même une personnalité, vous avez entendu, absolument de premier plan. Et cette fois-ci, j'ai demandé à François Ruffin, Pascal Pascarillo, on n'en parle plus, elle m'a valu que des ennuis. On essaye avec François Ruffin, en ayant préparé les questions, et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher.
Donc je vais prendre les questions dans l'ordre qu'on les a... Alors, une question préalable pour éclairer nos auditeurs français et moi également. Aujourd'hui âgé de 46 ans, vous êtes le plus jeune président du Conseil national de Monaco, élu en 2003, réélu cette année en 2008. Qui êtes-vous, Stéphane Valéry ?
Eh bien, je suis un monégasque qui a fait toutes ses études au lycée Albert Ier, notre lycée public de Monaco. Je suis diplômé donc de l'École européenne des affaires, du groupe EAP-ESCP de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. En ayant terminé mes études, je suis rentré dans mon pays et très rapidement, j'ai créé une entreprise que je dirige toujours, qui est une société de communication, de publicité.
Alors là, il y avait deux questions. Je vois que sur votre papier, ce n'est pas modifié, mais on a décidé de les réunir en une seule question avec votre conseiller en communication. Mmh. Une de vos ambitions, en accord avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, était d'améliorer l'image de la principauté de Monaco. Comment la principauté a-t-elle misé ? Le terme est peut-être mal choisi. J'avais écrit ça. Miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Oui, d'abord, la tradition de culturelle était réellement une vieille tradition à Monaco. Hein. Donc, déjà à la Belle Époque, au début du XXe siècle, il y avait des ballets à Monaco de Diaghilev, connus dans le monde entier.
Ah, mais là, on avait enlevé, avec votre conseiller en communication,
on enlève la culture.
Il était convenu qu'on enlève la culture pour éliminer un
très
peu
bien,
de...
Si vous voulez,
donc, on
alors,
se concentre
la question, c'est l'environnement.
Sur l'environnement. Ma question, en gros, c'est comment la principauté a-t-elle misé ? Le terme est peut-être mal choisi, miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Écoutez, d'abord, je ne crois pas qu'effectivement la principauté n'a pas misé. Il se trouve que c'est une conviction profonde du prince Albert II, hein, qui a créé d'ailleurs, dès qu'il est devenu souverain, une fondation, la fondation Albert II, justement pour lutter contre le réchauffement de la planète. Il n'y a pas là, je dirais, un calcul, il y a une conviction qu'aujourd'hui, on peut aimer son pays tout en aimant aussi sa planète.
Vous pourriez peut-être dire un mot, enfin, je vous dis ça comme ça, sur une sensibilité qu'il y aurait chez les Grimaldi à la nature, à l'environnement et tout ça, non ?
Oui, ben, si vous voulez, je vous l'ai dit indirectement en disant...
Peut-être même Albert Ier, quand il y avait eu les expéditions,
ouais,
tout ça.
D'accord.
Enfin, je ne sais pas.
Tout à fait.
Sur une sensibilité un peu familiale.
C'est vrai. Oui, incontestablement, il y a une sensibilité dans la dynastie des Grimaldi. On peut remonter par exemple au prince savant, le grand océanographe, le prince Albert Ier. Et puis bien sûr, le prince Albert II, qui est un prince moderne, un prince de son temps. Il a d'ailleurs consacré une fondation, sa fondation Albert II, à ses grands objectifs qui dépassent de beaucoup, je dirais, les frontières de Monaco. Être un citoyen moderne, être un prince moderne, c'est comprendre qu'on peut aimer bien sûr son pays tout en aimant aussi la planète et en se battant pour la sauver.
Très bien. Alors, cette question-là, la prochaine question, si ça ne vous dérange pas, je vais la mettre à la fin. Mmh, d'accord ?
Pas de problème.
On va faire une petite série de questions rapides. Donc, si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser votre pays, lequel conviendrait le mieux ?
Moi, j'ai une petite formule. À Monaco, la tradition, c'est l'innovation.
Alors ensuite, on va faire la même chose. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser le prince, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux ?
humaniste.
On va peut-être le refaire pour que ça soit... Vous voyez, là, ça fait... on a le sentiment... Ça fait pas assez spontané. On a le sentiment que vous l'avez écrit à l'avance et que vous ferez peut-être une petite hésitation. Enfin, vous voyez, ça vous dérange pas?
Oui, non, pas du tout.
Que ça fasse spontané, qu'on sente pas
d'accord.
Que vous avez tout réfléchi avant, que, comme si y avait un sentiment de surprise. Quoi.
D'accord.
D'accord. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux?
Écoutez, un seul, c'est difficile. Moi, je vous dirais humaniste, proche des gens, moderne, attaché à son pays, tout en l'étant tout autant à sa planète.
Très bien. Il y en a plus d'un, mais c'est votre cœur qui déborde. C'est...
Voilà.
C'était La main sur le micro avec des extraits de reportages de François Ruffin, Pascal Pascariello, Daniel Mermet, Guy Wongtil et Gaylord Van Vimersch. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Anthony Thomasson. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen, Franck Aderer et Jérôme Chélius, préparée avec Agnès Lebotte et Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, c'est France Inter.
Oui, bonjour.
C'est la radio que j'écoute tous les matins. Et mon épouse qui travaille aussi à l'ambassade de l'Inde. On tourne aux toilettes, douche tout le matin.
Avec France Inter,
oui.
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Moi, je suis le président de la diaspora indienne en France.
Oh, ben dites donc, c'est un vrai métier, ça.
C'est devenu un métier aussi parce qu'on a beaucoup à parler. Je suis très content aussi. D'abord, je suis français, mais quand je parle de mon héritage, j'ai hérité de deux meilleures cultures du monde. La culture française, parce que j'ai eu la chance d'être né à l'île Maurice, 100% francophone. Et aujourd'hui, je m'occupe de tous ces Indiens qui sont nés sur le territoire français, qui veulent partager leur héritage, comme Raghunath Mané, qui font partie de notre organisation section culturelle. Et puis, le monsieur qui est à côté de moi représente le Dalai Lama en France.
Bonjour à tous et bienvenue à l'ambassade de l'Inde à Paris où on célèbre la sortie du nouveau livre de Raghunath Mané, Shiva et les sept danses. Il y a combien d'Indiens qui vivent en France?
En France, en ajoutant tout, y compris la Guyane française, on est environ 1,2 million d'habitants qui vivent sur le sol français et on s'y attache. Ensemble, on va travailler pour rendre à la France sa vraie grandeur. C'est ma seule souci.
Ah bon, ça c'est bien. Enfin, la France va de nouveau rayonner.
Voilà, avec l'Inde, on va le faire rayonner.
Quel est votre nom, monsieur le président?
Je m'appelle Ved Prakash Guja.
Mais alors vous, monsieur le président, vous a présenté comme le représentant du Dalai Lama à Paris.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai, ça. C'est une blague.
C'est une erreur.
Parce que vous avez un petit côté tibétain.
Je suis tibétain.
Ah, quand même.
Ça, c'est pas une erreur.
Ça, c'est pas une erreur. Et alors, qu'est-ce que vous faites à l'ambassade d'Inde? De l'Inde.
Oh, je suis invité. Oh, non, je m'occupe de la maison de Tibet. Vous connaissez bien un peu, je sais pas, ça vous dit...
La maison de Tibet?
Ouais. Non, je suis jamais... On a l'habitude de faire chaque année des petits événements comme ça pour les Parisiens, notamment organiser des festivals, des choses comme ça, un festival de l'Himalaya et des peuples du Tibet.
Quelle est où la maison du Tibet à Paris?
Elle se trouve dans le 14e.
Et vous êtes né au Tibet?
Oui.
Et vous vivez en France?
Oui.
Ça va, c'est pas trop difficile?
D'après vous, le maniement de votre langue, j'ai l'air de me débrouiller, non?
Pas mal, oui. Voilà, vous débrouillez mieux en français que moi en tibétain.
Hein. Bon, ça va.
Qu'est-ce qui vous a amené ici?
C'est la circonstance historique m'ont fait que je suis arrivé ici.
Vous avez fui le Tibet?
Tout à fait, ouais.
Oui.
Donc,
pourquoi vous avez choisi la France?
Ce n'est pas moi qui ai choisi. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas l'âge de choisir.
Ah, d'accord. Vous aviez quel âge?
J'avais 5 ans.
Donc vous avez suivi vos parents?
Non, même pas. J'ai suivi mes parents jusqu'en Inde, puis après, C'est une histoire que vous êtes en train de me prendre, parce que c'est...
Moi, je prends rien, c'est vous qui m'offrez. Oui, voilà.
Je fais partie d'un 20 Tibétains qui sont accueillis par le gouvernement français, les peuples, à l'époque du général de Gaulle.
D'accord.
Oui, c'est une belle histoire.
Ah, oui. Et donc, vous êtes arrivé là à 5 ans, sans vos parents, avec 19 autres Tibétains
avec
que...
19 autres et un couple tuteur tibétain qui a su préserver notre culture tibétaine.
Et alors aujourd'hui, votre métier, c'est de s'occuper de la maison du Tibet à Paris.
Voilà, tout à fait. Donc maintenant, aujourd'hui, je fais un peu le pont entre la culture française et la culture tibétaine et essayer de trouver, faire le jeu de passerelle pour que les deux puissent exister, coexister, parce qu'effectivement, on a pu travailler.
Et quel est votre nom ?
Jigme Dorji.
Ça veut dire quelque chose ?
Oui, ça veut dire... Jigme, ça veut dire en tibétain sans peur, Dorji, bon, c'est le Vajra, c'est un peu éternel, ça veut dire quelque chose comme ça. Ouais.
Donc vous êtes sans peur ?
D'après mon nom, hein.
C'est dangereux d'être sans peur.
Je trouve aussi, mal, hein. Je trouve aussi, hein, ouais. Je trouve aussi. Bon.
Hein ? Que Dieu vous garde, alors.
Vous de même ?
Mais quel Dieu ?
Ah, ça dépend, c'est pas important.
Dieu
ou Bouddha ou pas ou laïque, c'est pas important. Du moment qu'on croit à quelque chose, à quelqu'un.
Merci beaucoup. Hein.
D'accord.
Bonne soirée.
Bonne
soirée. Vous jouez à l'ambassade d'Inde, mais vous n'êtes pas indien.
Non, mais je suis indien dans la mesure où je suis tzigane. Et les tziganes, au départ, ils viennent du Gange. Et ça, c'est mon frère Elios. Et on est d'une grande famille de tziganes, vrais tziganes, authentiques, tziganes d'origine slave.
Et votre nom ?
Je m'appelle Boulou.
Vous habitez où ?
Tziganes sans frontières. Non, Paris.
À Paris quand même, ah oui,
ouais,
c'est ça.
Ouais,
oui,
ouais.
Vous avez un appartement et tout.
Bien
ça.
Bien sûr. Et par contre, la roulotte, oui, dans la tête.
C'est plus facile.
Ben, c'est pas que c'est plus facile. On me dit toujours, tu es tzigane, Boulou. Et je dis, oui, mais je prends comme référence... Le livret de Prosper Mérimée. Je suis un enfant de bohème.
Je voulais jouer.
Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Voilà. Jean Correla.
Très bon après-midi et sur France Inter, il est 16h. Les infos, Marie Mutrici.
Le t-shirt blanc et surtout le grand sourire de George Vandenbosch, le prêtre libéré ce matin, a passé un mois et demi retenu par le groupe terroriste islamiste Boko Haram. Le père George revient en France demain matin, 6h40. François Hollande l'attendra sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Le ministre de la Défense en visite au Mali salue ce bel événement de fin d'année. Cela montre que nous n'oublions jamais nos otages, commente Jean-Yves Le Drian. Il reste 6 Français retenus au Mali, justement, et en Syrie. Un autre prêtre, mais cette fois c'est un déguisement. Un homme a tenté de s'introduire dans la chambre de Michael Schumacher à l'hôpital de Grenoble. Sans doute un journaliste, le pilote de Formule 1, est toujours entre la vie et la mort 2 jours après son accident de ski. Il y aurait un accord de cessez-le-feu au Soudan du Sud. Le plus jeune état de la planète s'est enfoncé dans une guerre civile ces 2 dernières semaines entre les forces fidèles au président Salva Kiir et les insurgés de Riek Machar. Les combats ont fait plusieurs milliers de morts selon les Nations Unies. Les 2 camps ont nommé des négociateurs pour tenter de mettre fin au conflit. La radio, c'est la vie. Alors chaque année, l'association Les Enfants du Canal distribue des appareils aux sans-abri dans plusieurs villes de France, comme à Toulouse ce matin, Frédéric Bourgade.
C'est une petite radio avec une dynamo que l'on remonte à la manivelle. Quelques grammes de bonheur désormais dans les mains de Jimmy, sans-abri polonais.
C'est important parce qu'on peut l'avoir de nouvelles, musique, oui, être occupé. C'est bon idée.
Il vit sous le pont des Catalans comme 4 à 6 000 autres SDF à la rue, car à Toulouse, en manque de de place pour les loger, hiver comme été. Cette radio, c'est un outil pour exister dans le monde. Stella Montello de l'association Les Enfants du Canal.
Ils se sentent vivants quand ils mettent en route la radio. Et reliés au monde. C'est un outil indispensable pour ne pas être une deuxième fois exclu. Hein. Je veux dire, c'est la double peine, la triple peine. Ils sont au courant de bien des choses, de ce qui se passe dans la société. Et ils apprécient vraiment qu'on puisse échanger toutes ces questions-là.
Au total, 10 000 de ces radios sont distribuées dans les grandes villes, dont Paris. Car même à la rue, on reste une femme, un homme, Isabelle Bricot.
Pour nous, c'est un petit geste, un peu de chaleur là, pour ces fêtes de fin d'année, d'offrir cette radio. Et pour montrer qu'ils ont droit aussi aux informations, ils ont droit à la culture, ils ont droit aux matchs de foot et même à la météo pour se mettre à l'abri avec une petite radio. Il n'y a pas que le chien qui est l'ami aussi quand on est à la rue. Quoi.
Avec cette radio, plus besoin désormais d'acheter des piles, surtout quand on a peu d'argent. D'où le bonheur de Carolec.
C'est presque ça, tous les jours, là, tout seul, toute la nuit. Écouter la musique, écouter des informations, ça, c'est bon. Merci.
Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Il est 16h03 sur France Inter. On retrouve Carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric Lodéon.
Merci Marie-Mutrici. Je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous avez l'occasion.
Bon réveillon ce soir.
Et puis on vous retrouve avant cela à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous, et oui, dernier jour, le temps passe, et puis ça continue tout de même, heureusement, on en est très content. Et ce temps qui passe, on essaie de le retenir, tout comme Franz Schubert, qui a passé son temps à marcher inlassablement à la recherche du bonheur sur cette terre. Il s'est inspiré pour sa vente d'horreur fantasy, sa fantaisie du voyageur d'un texte d'un certain Georg Philipp Schmidt von Lübeck, et qui se conclut ainsi: j'air silencieux, je ne suis que peu joyeux, et mon soupir demande toujours où, en un chuchotement d'esprit, m'arrive la réponse: là où tu n'es pas, se trouve le bonheur. Le final allegro de la Wanderer Fantasy de Franz Schubert, la fantaisie du voyageur, de l'errant, du promeneur, comme vous voudrez, interprété magistralement par Tristan Pfaff. Ben, le bonheur, il est quelquefois familial, par exemple la relation entre Félix et sa sœur Fanny, je parle des Mendelssohn, était vraiment magnifique. Voilà ce qu'elle écrit, Fanny, n'oublie pas que tu es ma main droite et la prunelle de mes yeux, et que sans toi la musique ne peut en aucune façon couler. Voilà, c'est ce qu'elle dit à son cadet bien-aimé Félix, qu'elle appelait son petit Hamlet. Et Félix, de son côté, avait fait de Fanny son cantor, c'est-à-dire son maître de musique, et la première lectrice de ses œuvres. Il attendait ses critiques, et quand, 20 ans plus tard, Félix apprendra la mort subite de Fanny, le 14 mai 1847, il poussera un cri et tombera inanimé. Et 6 mois après, il se laissera enlacer par les bras de la mort, le 4 novembre 1847, à 38 ans. Voilà, une liaison fusionnelle. Et donc Fanny était aussi une belle artiste, pianiste, compositeur, compositrice, comme on peut dire aujourd'hui aussi. Et je vous propose d'entendre l'allegretto de son quatuor à cordes en mi bémol majeur. Thank you.